Chapitre 10. L'abbé d'Herblay. Au bout du village, Planchet tourna à gauche, comme le lui avait ordonné Aramis, et s'arrêta au-dessous de la fenêtre éclairée. Aramis sauta à terre et frappa trois fois dans ses mains. Aussitôt la fenêtre s'ouvrit et une échelle de corde descendit. « Mon cher, dit Aramis, si vous voulez monter, je serai enchanté de vous recevoir. » « Ah ça, dit d'Artagnan, c'est comme cela que l'on rentre chez vous. » « Passé 9 heures du soir, il le faut par Dieu bien, dit Aramis. La consigne du couvent est des plus sévères. « Pardon, mon cher ami, dit d'Artagnan, il me semble que vous avez dit par Dieu. « Vous croyez, dit Aramis en riant, c'est possible. Vous n'imaginez pas, mon cher, combien dans ces maudits couvents on prend de mauvaises habitudes et quelles méchantes façons ont tous ces gens d'église avec lesquels je suis forcé de vivre. Mais vous ne montez pas? Passez devant, je vous suis. Comme disait le feu cardinal au feu roi, pour vous montrer le chemin, sire. » Et Aramis monta lestement à l'échelle, et en un instant, il eut atteint la fenêtre. D'Artagnan monta derrière lui, mais plus doucement. On voyait que ce genre de chemin lui était moins familier qu'à son ami. « Pardon, dit Aramis en remarquant sa gaucherie, si j'avais su avoir l'honneur de votre visite, j'aurais fait apporter l'échelle du jardinier. Mais pour moi seul, celle-ci est suffisante. « Monsieur, dit Planchet lorsqu'il vit d'Artagnan sur le point d'achever son ascension, cela va bien pour monsieur Aramis, cela va bien encore pour vous, cela, à la rigueur, irait aussi pour moi. Mais les deux chevaux ne peuvent pas monter l'échelle. Conduisez-les sous ce hangar, mon ami, dit Aramis en montrant à Planchet une espèce de fabrique qui s'élevait dans la plaine. Vous y trouverez de la paille et de l'avoine pour eux.
Mais pour moi, dit Planchet,
vous reviendrez sous cette fenêtre, vous frapperez trois fois dans vos mains et nous vous ferons passer des vivres. Soyez tranquille, morbleu, on ne meurt pas de faim ici. Allez. Et Aramis, retirant l'échelle, ferma la fenêtre. D'Artagnan examinait la chambre. Jamais il n'avait vu appartement plus guerrier à la fois et plus élégant. À chaque angle étaient des trophées d'armes, offrant à la vue et à la main des épées de toutes sortes, et quatre grands tableaux représentaient dans leurs costumes de bataille le cardinal de Lorraine, le cardinal de Richelieu, le cardinal de la Valette et l'archevêque de Bordeaux. Il est vrai qu'au surplus, rien n'indiquait la demeure d'un abbé. Les tentures étaient de Damas, les tapis venaient d'Alençon, et le lit surtout avait plutôt l'air du lit d'une petite maîtresse, avec sa garniture de dentelle et son couvre-pied, que de celui d'un homme qui avait fait vœu de gagner le ciel par l'abstinence et la macération. « Vous regardez mon bouge ?» dit Aramis. « Ah, mon cher, excusez-moi. Que voulez-vous? Je suis logé comme un chartreux. Mais que cherchez-vous des yeux ?»« Je cherche qui vous a jeté l'échelle. Je ne vois personne, et cependant l'échelle n'est pas venue toute seule. »« Non, c'est Bazin. »« Ah ah ! » fit d'Artagnan. « Mais, continua Aramis, « Monsieur Bazin est un garçon bien dressé qui, voyant que je ne rentrais pas seul, se sera retiré par discrétion. Asseyez-vous, mon cher, et causons. » Et Aramis poussa à d'Artagnan un large fauteuil dans lequel celui-ci s'allongea en s'accoudant. « D'abord, vous soupez avec moi, n'est-ce pas ? » demanda Aramis. « Oui, si vous le voulez bien, dit d'Artagnan. Et même ce sera avec grand plaisir, je vous l'avoue. La route m'a donné un appétit de diable. « Ah, mon pauvre ami, dit Aramis, vous trouverez maigre chair, on ne vous attendait pas. Est-ce que je suis menacé de l'omelette de Crèvecœur et des théobromes en question? N'est-ce pas comme cela que vous appeliez autrefois les épinards? Oh, il faut espérer, dit Aramis, qu'avec l'aide de Dieu et de Bazin, nous trouverons quelque chose de mieux dans le garde-manger des dignes pères jésuites. « Bazin, mon ami, dit Aramis, Bazin, venez ici. » La porte s'ouvrit et Bazin parut. Mais, en apercevant D'Artagnan, il poussa une exclamation qui ressemblait à un cri de désespoir. « Mon cher Bazin, dit D'Artagnan, je suis bien aise de voir avec quel admirable aplomb vous montez, même dans une église. » « Monsieur, dit Bazin, j'ai appris des dignes pères jésuites qu'il était permis de mentir lorsqu'on mentait dans une bonne intention. » « c'est bien, Bazin. D'Artagnan meurt de faim et moi aussi. Servez-nous à souper de votre mieux et surtout, montez-nous du bon vin. » Bazin s'inclina en signe d'obéissance, poussa un gros soupir et sortit. « Maintenant que nous voilà seuls, mon cher Aramis, dit D'Artagnan en ramenant ses yeux de l'appartement au propriétaire et en achevant par les habits l'examen commencé par les meubles. « Dites-moi d'où diable veniez-vous lorsque vous êtes tombé en croupe derrière Planchet ?»« Hé, corbleu ! » dit Aramis, « vous le voyez bien ? Du ciel ?»« Du ciel ? » reprit D'Artagnan en hochant la tête. « Vous ne m'avez pas plus l'air d'en revenir que d'y aller. » « Mon cher, dit Aramis, avec un air de fatuité que D'Artagnan ne lui avait jamais vu du temps qu'il était mousquetaire, « si je ne venais pas du ciel, au moins je sortais du paradis, ce qui se ressemble beaucoup. » « Alors, voilà les savants fixés, reprit D'Artagnan. Jusqu'à présent, on n'avait pas su s'entendre sur la situation positive du paradis. Les uns l'avaient placé sur le mont Ararat, les autres entre le Tigre et l'Euphrate. Il paraît qu'on le cherchait bien loin tandis qu'il était bien près. Le paradis est à Noisy-le-Sec, sur l'emplacement du château de M. l'archevêque de Paris. On en sort non point par la porte, mais par la fenêtre. On en descend non par les degrés de marbre d'un péristyle, mais par les branches d'un tilleul. Et l'ange à l'épée flamboyante qui le garde m'a bien l'air d'avoir changé son nom céleste de Gabriel en celui plus terrestre de prince de Marsillac. » Aramis éclata de rire. « Vous êtes toujours joyeux compagnon, mon cher, dit-il, et votre spirituelle humeur gasconne ne vous a pas quitté. Oui, il y a bien un peu de tout cela dans ce que vous dites. Seulement, n'allez pas croire au moins que ce soit de Madame de Longueville que je sois amoureux. » « Peste, je m'en garderai bien, dit D'Artagnan. Après avoir été si longtemps amoureux de Madame de Chevreuse, vous n'auriez pas été porter votre cœur à sa plus mortelle ennemie. » « Oui, c'est vrai, dit Aramis d'un air détaché. Oui, cette pauvre duchesse, je l'ai fort aimée autrefois, et il faut lui rendre cette justice qu'elle nous a été fort utile. Mais que voulez-vous, il lui a fallu quitter la France. » « C'était un si rude jouteur que ce damné cardinal, continua Aramis en jetant un coup d'œil sur le portrait de l'ancien ministre. Il avait donné l'ordre de l'arrêter et de la conduire au château de Loches. Il lui eût fait trancher la tête, sur ma foi, comme à Chalais, à Montmorency et à Saint-Mars. Elle s'est sauvée, déguisée en homme, avec sa femme de chambre, cette pauvre Ketty. Il lui est même arrivé, à ce que j'ai entendu dire, une étrange aventure dans je ne sais quel village, avec je ne sais quel curé à qui elle demandait l'hospitalité et qui, n'ayant qu'une chambre et la prenant pour un cavalier, lui a offert de la partager avec elle. C'est qu'elle portait d'une façon incroyable l'habit d'homme, cette chère Marie. Je ne connais qu'une femme qui le porte aussi bien. Aussi avait-on fait ce couplet sur elle. La boissière, dis-moi. Vous le connaissez ? Non pas. Chantez-le, mon cher. Et Aramis reprit du ton le plus cavalier. La riboisière, dis-moi, suis-je pas bien en homme? Vous chevauchez, ma foi, mieux que tant que nous sommes. La 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 la, elle est parmi les halbardes, au régiment des gardes, la la la, comme un cadet.
Bravo, dit D'Artagnan, vous chantez toujours à merveille, mon cher Aramis, et je vois que la messe ne vous a pas gâté la voix. Mon cher, dit Aramis, vous comprenez? Du temps que j'étais mousquetaire, je montais le moins de gardes que je pouvais. Aujourd'hui que je suis abbé, je dis le moins de messes que je peux. Mais revenons à cette pauvre duchesse.
Laquelle ? La duchesse de Chevreuse ou la duchesse de Longueville ? Mon cher, je vous ai dit qu'il n'y avait rien entre moi et la duchesse de Longueville. Des coquetteries, peut-être, et voilà tout. Non, je parlais de la duchesse de Chevreuse. L'avez-vous vue à son retour de Bruxelles, après la mort du roi ? Oui, certes, et elle était fort belle encore. Oui, dit Aramis, aussi l'ai-je quelque peu revue à cette époque. Je lui avais donné d'excellents conseils dont elle n'a point profité. Je me suis tué de lui dire que Mazarin était l'amant de la reine. Elle n'a pas voulu me croire, me disant qu'elle connaissait Anne d'Autriche et qu'elle était trop fière pour aimer un pareil faquin. Puis, en attendant, elle s'est jetée dans la cabale du duc de Beaufort et le faquin a fait arrêter M. le duc de Beaufort et exiler Mme de Chevreuse. « Vous savez, dit D'Artagnan, qu'elle a obtenu la permission de revenir ?»« Oui, et même qu'elle est revenue. Elle va encore faire quelques sottises. »« Oh, mais cette fois, peut-être suivra-t-elle vos conseils. »« Oh, cette fois, dit Aramis, je ne l'ai pas revue. Elle est fort changée. »« Ce n'est pas comme vous, mon cher Aramis, car vous êtes toujours le même. Vous avez toujours vos beaux cheveux noirs, toujours votre taille élégante, toujours vos mains de femme qui sont devenues d'admirables mains de prélat. » Oui, dit Aramis, c'est vrai, je me soigne beaucoup. Savez-vous, mon cher, que je me fais vieux ? Je vais avoir 37 ans. Écoutez, mon cher, dit D'Artagnan avec un sourire, puisque nous nous retrouvons, convenons d'une chose. C'est de l'âge que nous aurons à l'avenir. Comment cela ? Dit Aramis. Oui, reprit D'Artagnan, autrefois, c'était moi qui étais votre cadet de 2 ou 3 ans. Et si je ne fais pas d'erreur, j'ai 40 ans bien sonnés. Vraiment, dit Aramis. Alors c'est moi qui me trompe, car vous avez toujours été, mon cher, un admirable mathématicien. J'aurai donc 43 ans à votre compte. Diable, diable, mon cher, n'allez pas le dire à l'hôtel de Rambouillet, cela me ferait tort. Soyez tranquille, dit D'Artagnan, je n'y vais pas. Ah ça, mais, s'écria Aramis, que fait donc cet animal de Bazin ? Bazin ! Dépêchons-nous donc, monsieur le drôle ! Nous enrageons de faim et de soif. Bazin, qui entrait en ce moment, leva au ciel ses mains chargées chacune d'une bouteille. Enfin, dit Aramis, sommes-nous prêts ? Voyons. Oui, monsieur, à l'instant même, dit Bazin. Mais il m'a fallu le temps de monter toutes les... Parce que vous vous croyez toujours votre simarre de bedeau sur les épaules, interrompit Aramis, et que vous passez tout votre temps à lire votre bréviaire. Mais je vous préviens que si, à force de polir toutes les affaires qui sont dans les chapelles, vous désappreniez à fourbir mon épée, j'allume un grand feu de toutes vos images bénites et je vous y fais rôtir. » Bazin, scandalisé, fit un signe de croix avec la bouteille qu'il tenait. Quant à D'Artagnan, plus surpris que jamais du ton et des manières de l'abbé d'Herblay, qui contrastait si fort avec celle du mousquetaire Aramis, il demeurait les yeux écarquillés en face de son ami. Bazin couvrit vivement la table d'une nappe damassée et sur cette table rangea tant de choses dorées, parfumées, friandes que D'Artagnan en demeura tout ébahi. « Mais vous attendiez donc quelqu'un ? » demanda l'officier. « dit Aramis, « j'ai toujours un encas. Puis je savais que vous me cherchiez. Par qui ? Mais par maître Bazin, qui vous a pris pour le diable, mon cher, et qui est accouru pour me prévenir du danger qui menaçait mon âme si je revoyais aussi mauvaise compagnie qu'un officier de mousquetaire. Oh, monsieur ! Fit Bazin les mains jointes et d'un air suppliant. Allons, pas d'hypocrisie. Vous savez que je ne les aime pas. Vous feriez mieux d'ouvrir la fenêtre et de descendre un pain, un poulet et une bouteille de vin à votre ami Planchet qui s'extermine depuis 1 heure à frapper dans ses mains. » En effet, Planchet, après avoir donné la paille et l'avoine à ses chevaux, était revenu sous la fenêtre et avait répété 2 ou 3 fois le signal indiqué. Bazin obéit, attacha au bout d'une corde les 3 objets désignés et les descendit à Planchet, qui, n'en demandant pas davantage, se retira aussitôt sous le hangar. « Maintenant, soupons !» dit Aramis. Les 2 amis se mirent à table, et Aramis commença à découper poulet, perdreau et jambon, avec une adresse toute gastronomique. « Peste, dit d'Artagnan, comme vous vous nourrissez !»«
Oui, assez bien. J'ai pour les jours maigres des dispenses de rhum que m'a fait avoir monsieur le coadjuteur à cause de ma santé. Puis j'ai pris pour cuisinier l'ex-cuisinier de La Folonne, vous savez, l'ancien ami du cardinal, ce fameux gourmand qui disait pour toute prière, après son dîner, « Mon Dieu, faites-moi la grâce de bien digérer ce que j'ai mangé.
» Ce qui ne l'a pas empêché de mourir d'indigestion, dit en riant d'Artagnan.
« Que voulez-vous ? Reprit Aramis d'un air résigné. « On ne peut fuir sa destinée. »
« Mais pardon, mon cher, de la question que je vais vous faire, » reprit d'Artagnan.
« Comment donc, faites ? Vous savez bien qu'entre nous, il ne peut y avoir d'indiscrétion.
Vous êtes donc devenu riche ?
Oh, mon Dieu, non ! Je me fais une douzaine de mille livres par an, sans compter un petit bénéfice d'un millier d'écus que m'a fait avoir monsieur le prince. »
« Et avec quoi vous faites-vous ces 12 000 livres ? Dit d'Artagnan. « Avec vos poèmes ?»«
Non, j'ai renoncé à la poésie, excepté pour faire de temps en temps quelques chansons à boire, quelques sonnets galants ou quelques épigrammes innocents. Je fais des sermons, mon cher. »«
Comment des sermons ?»«
Oh, mais des sermons prodigieux, voyez-vous, à ce qu'il paraît du moins. »«
Que vous prêchez ? » ?»«
Non, que je vends. »
« À qui ?
À ceux de mes compères qui visent à être de grands orateurs, donc. »«
Ah, vraiment ? Et vous n'avez pas été tenté de la gloire pour vous-même ? » ?»«
Si fait, mon cher, mais la nature l'a emporté. Quand je suis en chair et que par hasard une jolie femme me regarde, je la regarde. Si elle sourit, je souris aussi. Alors je bats la campagne. » Au lieu de parler des tourments de l'enfer, je parle des joies du paradis. Et, tenez, la chose m'est arrivée un jour à l'église Saint-Louis-au-Marais. Un cavalier m'a ri au nez. Je me suis interrompu pour lui dire qu'il était un sot. Le peuple est sorti pour ramasser des pierres, mais pendant ce temps, j'ai si bien retourné l'esprit des assistants que c'est lui qu'ils ont lapidé. Il est vrai que le lendemain, il s'est présenté chez moi, croyant avoir affaire à un abbé comme tous les abbés.
Et qu'est-il résulté de sa visite ? Dit d'Artagnan en se tenant les côtes de rire.
Il en est résisté que nous avons pris pour le lendemain soir rendez-vous sur la place royale.
Eh pardieu, vous en savez quelque chose !
Serait-ce par hasard contre cet impertinent que je vous aurais servi de second ? Demanda d'Artagnan.
Justement. « Vous avez vu comme je l'ai arrangé ? » ?»«
En est-il mort ? » ?»«
Je n'en sais rien, mais en tout cas, je lui avais donné l'absolution in articulo mortis. C'est assez de tuer le corps sans tuer l'âme. »
Bazin fit un signe de désespoir qui voulait dire qu'il approuvait peut-être cette morale, mais qu'il désapprouvait fort le ton dont elle était faite.
« Bazin, mon ami, vous ne remarquez pas que je vous vois dans cette glace ? » Et qu'une fois pour toutes, je vous ai interdit tout signe d'approbation ou d'improbation. Vous allez donc me faire le plaisir de nous servir le vin d'Espagne et de vous retirer chez vous.
D'ailleurs, mon ami d'Artagnan a quelque chose de secret à me dire, n'est-ce pas, d'Artagnan ?
D'Artagnan fit signe de la tête que oui, et Bazin se retira après avoir posé le vin d'Espagne sur la table. Les deux amis restaient seuls, demeurèrent un instant silencieux en face l'un de l'autre. Aramis semblait attendre une douce digestion. D'Artagnan préparait son exorde. Chacun d'eux, lorsque l'autre ne le regardait pas, risquait un coup d'œil en dessous. Aramis rompit le premier le silence. «